On va commencer par l'Apocalypse, parce qu'il y a quelque chose de la bête, d'une des bêtes de l'Apocalypse au chapitre 13. J'ai vu monter, dit donc l'apôtre Jean, une bête ayant 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes et 7 têtes. Donc déjà, on va nous dire que c'est compliqué. 10 cornes, 7 têtes, c'est même indescriptible, c'est confus, vous allez voir. On peut même pas le dessiner tout à fait. Avec un diadème sur chacune des 10 cornes et sur les têtes des noms blasphématoires. Et la bête que j'ai vue ressemblait à une panthère, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme celle d'un lion. Vous voyez, un monstre avec un mélange de bêtes féroces et de bêtes sauvages. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Donc on s'aperçoit qu'il y a là quelque chose qu'il y a une autorité supérieure. Et il va recevoir un pouvoir subalterne, mais très étendu. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête. Alors vous voyez, ce sort de miracle, la tête, l'une des 7 têtes est blessée, elle est guérie. Alors le monde qui recherche du soulagement, de la guérison, l'humanité va être dupée par cette guérison extraordinaire, par cette merveille en fait. Elle ouvrit la bouche alors pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Comme on dit chez nous en Martinique, la terre n'a pas capoté. Ça y est, elle a fait un miracle, donc elle est plus grande que Dieu. Et donc elle en profite de cette adoration du monde, de cet émerveillement. Ça y est, elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et sa demeure, et contre ceux qui demeurent au ciel. Donc vous voyez, ceux qui demeurent au ciel. Donc cette solution alternative à Dieu, une solution de facilité, va être proposée aux hommes qui vont se jeter dedans, mais à quel prix ? Au prix du renoncement et de l'apostasie. Verset 7, chapitre 13 de l'Apocalypse, toujours, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Donc il y a une haine de l'Église, nous sommes prévenus. « Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. » Donc toujours l'extension. « Ils se prosterneront devant elle et tous ceux qui habitent sur la terre et dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. » Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Donc on voit bien que c'est compliqué. Alors, à travers cette description apocalyptique, j'aimerais vous parler de ce que les pères de l'Église ont appelé l'acédie. J'en parle assez souvent dans mes catéchèses, parce que je crois vraiment que c'est le démon, le vieux démon, le grand démon de ce monde, l'acédie. On connaît peu le terme. Quand on récite les 7 péchés capitaux, on parle de paresse. Alors on a l'impression que c'est de laisser traîner ses chaussettes sales par terre. On ne voit pas, oh, ce serait un péché capital. Bon, c'est pas bien, mais c'est pas un péché capital. La cédille, c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas non plus uniquement, même si ça peut faire partie, ça part d'une sorte de chagrin. Le chagrin, c'est psychologique. On ne choisit pas d'avoir du chagrin. Jésus a eu du chagrin quand son ami Lazare est mort, ou devant le mal, on a du chagrin. On peut être abattu. Quoique, justement, cet abattement, lorsqu'il se prolonge, lorsqu'on ne lutte pas contre l'abattement, contre l'anxiété psychologique, eh bien, c'est déjà une façon de se laisser aller. Au sens propre, on se laisse aller dans une sorte de courant de tristesse, d'où ce qu'on entend notamment en avant, quitte ta robe de tristesse. Si tu ne quittes pas ta robe de tristesse, bon, que tu l'aies revêtue cette robe de tristesse, qu'elle te soit imposée par les circonstances, par ta vie, par des blessures, par les conditions, ok, tu as une robe de tristesse, ok, mais à un moment donné, faut que tu rayes, faut l'enlever, cette robe de tristesse, faut l'enlever. Alors, voilà. Et le péché qui advient, c'est l'aigreur. Et les 3 termes sont dans la Bible. Alors, je me suis amusé à regarder quelles sont les 7 têtes, parce que ce démon de la cédie est extrêmement complexe. À la fois, il est très simple, on va voir tout à l'heure, mais en même temps, il a des effets complexes dans la vie de quelqu'un, parfois opposés. On verra qu'il y a à la fois l'activisme pour certains, et de l'autre côté, la paresse pour d'autres. Et c'est le même démon, et qui aura le même effet. Alors c'est celui qu'on appelle aussi le démon de midi, c'est le mal de notre époque. Et d'ailleurs, les membres de l'Église ne sont pas imperméables à ce mal. On est inquiet. Parfois on croit qu'être chrétien, plus on est chrétien, plus on doit critiquer le monde, plus on doit être abattu par le mal dans le monde. Alors que c'est l'inverse. Plus on est chrétien, plus on doit affronter le mal du monde, les blessures, les notes, c'est les autres, même notre propre péché avec de la joie. Avec de la joie, de la confiance et de l'espérance. Mais au contraire, on a l'impression qu'il faut qu'on est triste. Alors, le chrétien, c'est un triste saint, c'est un triste. Alors, le premier, donc ce démon de midi, c'est cette déconnexion avec Dieu. On va se déconnecter. Vous savez, vers midi, le moine priait, puis il prie depuis le lever du soleil, même avant. puis il prie toute la matinée, et puis quand le soleil monte, le soleil n'a qu'à monter, la chaleur monte. Et vers midi, il commence à être las. C'est la lassitude. Alors il se déconnecte de Dieu. Voilà le début de ce démon. Alors solitude de l'âme, fuite de Dieu, incrédulité, apostasie. Je finis par renoncer à Dieu, par l'oublier en fait, dans ma vie, de façon pratique ou volontaire. Ingratitude envers Dieu qui m'a tout donné. Voilà. Donc première tête, la déconnexion avec Dieu. Deuxième tête, c'est la suite, la tiédeur. Tu es tiède, dit l'Apocalypse, je vais te vomir de ma bouche. La défaillance dans l'esprit, le relâchement, l'aridité spirituelle, j'ai plus envie. Il n'y a plus d'ardeur. Comme un bien-aimé, un époux qui n'aime plus sa femme, une femme qui n'aime plus son mari, voilà, j'aime plus, comme dit Alain Souchon, j'aime plus sa vie, ses jeux, sa maman, carrément méchant, jamais content, dit la chanson. Vous vous souvenez, les plus anciens, ceux de mon âge, voilà. Troisième tête, la tristesse. La tristesse, l'ennui, la perte de vigilance. Vous voyez, tout ça s'emboîte, logiquement. Le non-désir du bien, j'ai plus envie de faire le bien. Je ne recherche plus le bien, alors du coup, je vais me tourner. C'est là qu'il est très dangereux. C'est le premier tournant de cette bête de l'Apocalypse, ce démon. C'est qu'il me dit, retourne à tes désirs anciens, à tes désirs inférieurs. Tu as vaincu la gourmandise, tu as vaincu la luxure, tu as vaincu l'avarice, tu as vaincu la colère, la jalousie. Mais finalement, retourne à tout ça. Retourne à tous ces plaisirs parce que ta vie est vide de toutes les façons. Donc devant toi, il y a un grand vide. Alors retourne à ce qui t'a déçu jadis, mais qui finalement il y a rien d'autre. Donc c'est même pas par goût du plaisir que celui qui est atteint de ce démon, et c'est le cas de notre monde. Notre monde est allé au bout des plaisirs, au bout des débauches, au bout de du libertarisme. Mais finalement il y revient, non pas parce qu'il recherche du plaisir, parce qu'il sait que c'est décevant, mais parce que il semble, pour lui, il n'y a plus rien. Il a renoncé à la présence de Dieu. Alors du coup, comme il n'y a plus rien devant toi, qu'est-ce que tu fais? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On ne mange pas et boire parce que le boire et le manger est bon. Ça, c'est un péché, mais c'est bien. C'est bien si on mange trop et si on boit trop, évidemment. Bon, c'est normalement, voilà. Bon. Mais par contre, mangeons et buvons parce qu'on ne croit pas en Dieu. Voilà ce que nous fait faire la cité. Quatrième tête, l'oisiveté, la paresse, si vous préférez, mais l'oisiveté, mère de tous les vices, justement. Nonchalance, torpeur, somnolence, langueur, voilà, bof. On ne se lève pas le matin. On reste dans sa paresse. Et on sait ce qui se passe. Et on sait que c'est concret pour certains, pour toute une jeunesse, pour des générations entières, de rester dans l'oisiveté, de ne rien faire, finalement, et de chercher un argent facile. Cinquième tête de cette bête, la distraction. J'y reviens, donc le vagabondage, la distraction intérieure, une sorte d'instabilité, de bavardage, de curiosité, de macrelage, qu'on dit chez nous. On cherche partout, on cherche à se distraire, on fuit intérieurement. Les drogues, les addictions, l'activisme. Oui, paradoxalement, tout à l'heure on parlait d'oisiveté, mais là, on va chercher partout, on est une sorte de boulimie de toutes sortes de choses pour remplir sa vie, parce qu'elle est vide. Parce qu'on a refusé de la remplir de Dieu. Enfin, sixième tête, l'aigreur, le m'enlevé fâché, je suis pas bien, j'ai envie de me, voilà, la présomption aussi, l'insatisfaction, je suis pas content, je suis acariâtre, la rancune, la pusillanimité, je vois les choses, voilà, j'essaie de me venger, etc., la haine de la vie. Qui conduit chez nous à l'avortement, au crime dans les rues, etc., etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, la septième tête, le désespoir, l'inquiétude, l'affolement, le désespoir. Il y a là l'effondrement intérieur, le collapse, on collapse intérieurement, la panique aussi. Alors, saint Thomas d'Aquin va décrire d'une autre façon ce démon de la sédie, cette tristesse qui est dans ce monde. Même si je pense qu'au XXe et XXIe siècle, il a atteint un paroxysme, ce démon de la sédie. Je pense que c'est le démon de notre siècle. Au temps de Saint Dominique et Saint François, n'est-ce pas mon père, le grand démon, c'était celui de la richesse, de l'avarice. C'est pour ça que Saint François et Saint Dominique, et qui perdaient des âmes, et notamment des âmes de clercs, de membres du clergé, et Saint François et Saint Dominique vont choisir la pauvreté radicale. Même la mendicité. Dans l'Église, il y a plein de groupes comme ça, même qui vont choisir ça. Mais aujourd'hui, c'est la tristesse. C'est ce démon qui fait retourner à plein de choses, on verra les effets. Alors je reviens à saint Thomas d'Aquin qui dit que la cédille, c'est une tristesse par rapport au bien divin. C'est-à-dire ça touche Dieu, c'est d'ailleurs dans l'échelle des péchés capitaux, c'est l'avant-dernier, le dernier c'est l'orgueil. Là c'est regarder Dieu dans les yeux puis lui dire, voilà, je suis à ta place. Mais ça nous on n'en est pas capable tout à fait, l'orgueil, enfin, l'orgueil il est partout dans tous les péchés. Mais de façon consciente, de faire un acte d'orgueil devant Dieu, ça arrive, hein, ça arrive à beaucoup d'hommes et de certaines sociétés dont je ne parlais pas. Mais, enfin, nous, chrétiens, globalement, on peut être vaniteux. Vaniteux, c'est se croire mieux que les autres. Mais l'orgueil, c'est se croire mieux que Dieu. Nous, chrétiens, on est plutôt protégés. Mais en fait, l'orgueil est très subtil chez nous. Parce qu'un acte de gourmandise est déjà un acte d'orgueil, quand même. Parce que je dis à Dieu, écoute, Seigneur, je sais que c'est pas bien de faire tel acte, mais je le fais quand même. Je vais te demander pardon après. Bon. Alors, c'est une tristesse, je reviens à la cédille, par rapport au bien, par rapport au bonheur que Dieu veut nous donner. C'est-à-dire, j'ai pas envie, je n'y crois plus. C'est le démon, à quoi bon? Voilà les racines. La racine de la cédille, c'est pff, à quoi bon? À quoi bon? Je ne crois plus à ce bien. Je ne crois plus à ce bonheur éternel. Le désespoir, ouais, on en a parlé. Je reviendrai dans quelques instants. Hein. Je n'y crois plus. Et il y a une auto-malédiction. Et donc voilà, donc c'est un péché contre l'espérance. Voilà. Et puis, il y a le démon, tant pis. Alors si le démon, à quoi bon, c'est par rapport à la fin, le bonheur, le démon, tant pis, c'est par rapport aux moyens. Parce que pour aller à la vie éternelle, je prends des moyens. Je prie, j'aime les autres, je rends service, je loue, je chante, etc. Mais du coup, tant pis, mais ça, voilà, c'est un dégoût dans l'action. Il y a la tristesse par rapport au bien final, et puis dans les moyens, ben, j'ai plus envie. Je crois plus. Si le bonheur, c'est d'aller, je sais pas, au Morne-Rouge, hein, qui est une commune de Martinique, je crois plus que le monde rouge existe, et puis finalement, j'ai plus envie de prendre ma voiture non plus. Donc ouais, c'est un peu le même résultat. Hein. Donc c'est une paralysie, une paresse, une inaction, on a dit, ça sert à rien. Et donc les fruits mauvais, amers de la cédille, c'est l'inverse de l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça veut dire entheos, Dieu en moi, on y va, allez, etc. Dieu qui nous pousse en mission à partir, à témoigner, à être des martyrs, à prier, à donner du temps pour lui. Eh bien, inversement, la cédille, elle va nous dire, ah, tu arrêtes avec tout ça, c'est l'inverse de l'enthousiasme. Je ne sais pas comment l'appeler, le désenthousiasme, hein, le extousiasme. Un Dieu en dehors de moi, je ne veux pas qu'il soit en moi. Voyez. Et puis l'autre fruit, ben, c'est la malice, la volonté de faire le mal. Au bout d'un moment, ben, je fais le mal par volonté de faire. Ça, c'est le pire, hein, c'est le fin du fin, c'est le sommet hein, du mal. Parce qu'on peut faire le mal par misère. Bon, on est pauvre, vous savez, moi, vous me mettez devant un bon pâté cannelle. C'est pas que j'ai envie de faire le mal, mais enfin c'est pas un péché le pâté cannelle, rassurons-nous. Hein. Bon, je donne cet exemple. Bon, c'est pas que j'ai envie de faire le mal, mais j'ai envie de le manger. Par contre, il est bon. Oui, c'est de la misère, c'est ma pauvreté. Ok. Mais par contre, quand on fait le mal pour faire le mal, voyez. Bon, si quelqu'un vous offense, elle peut vous offenser parce que ce jour-là, la personne a bu, la personne ne va pas bien. Allez, c'est par misère. Elle vous dit quelque chose, mais elle ne va pas bien. Je dis, mais non, il ne va pas bien. Mais si la personne est en toute possession de ses facultés et veut vous faire du mal, c'est de la malice, vous voyez. C'est la volonté de faire le mal. Ce n'est pas la misère. Bon. Et là, c'est dit hein, comme fruit, la malice. Vatican II a très, très bien décrit dans Gradium et Spes. On dit toujours que Vatican II est un concile un peu naïf, etc. Pas du tout. Il a très, très bien décrit, avec des pages entières dans Gradium et Spes, ce péché. Hein? En disant, on est foutu parce qu'on a enlevé l'église au milieu du village et on a remplacé l'église par un commerce. Et ce commerce rend tout le monde malheureux. Parce qu'il y a ceux qui croient que le commerce, c'est le bon Dieu, donc qui ont les moyens et qui vont acheter, qui vont tuer père et mère pour acheter dans ce commerce. Puis il y a ceux qui n'ont pas les moyens et qui sont exclus du bonheur. Alors que l'église, elle était ouverte pour tous. Refusant de, voilà ce que dit Vatican II, refusant de reconnaître Dieu comme son principe, l'homme a brisé l'ordre qui l'orientait vers sa fin. À partir du moment où Dieu n'est plus le principe, c'est fini. Tu as brisé quelque chose. Il a rompu toute harmonie, soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres hommes, soit par rapport à toute la création. L'homme se découvre incapable par lui-même de vaincre effectivement le mal. Et il se sent comme chargé de chaînes. Voilà comment décrit. Et c'est tout à fait, ça a 60 ans, et ça n'a pas pris une ride. Au contraire, on dirait que c'est encore plus lumineux aujourd'hui qu'il y a 60 ans, ce texte. Hein? L'homme est chargé de chaînes. Et on ne parle pas. Vous voyez, c'est comme les gens, ils ont tous les moyens de bonheur. On a des moyens aujourd'hui que nos grands-pères n'avaient pas, ou même nos pères, ou même nous dans notre enfance, d'être heureux. Et pourtant, il y a plus de gens malheureux. Plus de gens malheureux. Alors voilà les 10 cornes. Je me suis amusé à trouver les 10 cornes de cette bête. La première corne est le mensonge. Le mensonge, le révisionnisme. On révise l'histoire, on est dans l'illusion, le sophisme, dans l'utopie, l'impérialisme aussi mondialiste. C'est-à-dire qu'il y a une culture qui envahit le monde entier, la culture occidentale avec la consommation, etc., et qui vient détruire, on le voit bien aux Antilles, en Afrique, on vient détruire la culture de ce monde, les autres cultures du monde. Deuxième corne, l'égolatrisme. J'ai forgé, ça vient pas de moi, mais j'aime bien ce néologisme, donc je le reforge. L'égoïsme et l'idolâtrie. C'est-à-dire que je deviens un petit dieu. Je deviens un petit dieu. C'est à la fois de l'individualisme, mais aussi ce qui va me pousser à gaspiller, le gaspillage. Je vais gaspiller, parce que je pense qu'à moi, je pense pas aux générations futures. Laudato si, du pape François. Troisième corne, le libertarisme. C'est le cancer de la liberté. Le libertinage, la débauche, les drogues. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est érigé. Les cornes se ressemblent. Et puis, il y a le matérialisme. Alors, j'ai repris aussi le texte du cardinal Ratzinger dans la messe, juste avant qu'il soit élu pape comme Benoît XVI, enfin, avec le nom de Benoît XVI. Il avait fait une messe où il décrivait ce monde. Et notamment dans un passage qui est devenu très très célèbre et même historique. Et donc il parle du matérialisme, le mercantilisme, tout s'achète, tout se vend, même l'être humain. Le marxisme, etc. Et puis la violence, la loi du plus fort, autre corne, l'anarchie, les dictatures, les conflits, on les voit naître. Autre corne de cette bête, c'est toujours la cédille, qui sont à la fois des fouilles et des conséquences de cette tristesse, de ce refus de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on refuse Dieu? On met l'homme au centre. Et cet humanisme conduit au contraire à une négation. L'homme a tout échoué. Depuis qu'il n'a plus mis Dieu au centre, il a échoué la vie des hommes entre eux, il a échoué par son lien avec la nature qu'il a détruit. Tout s'effondre en fait, comme un enfant qui casse son jouet. On lui offre un jouet à Noël, tout content, il fait pam pam, il le casse. C'est cassé. Il a cassé l'homme. Alors, il y a un déshumanisme, du coup, une détestation de l'homme. On entre dans l'eugénisme, les discriminations, l'avortement, l'euthanasie, le suicide, le sexisme, le racisme, le gender, etc. On va commencer l'homme essaie de se reconstruire par lui-même, et puis finalement, eh ben, il n'y arrive pas, il est triste. Ensuite, la domination, l'esclavage, la soumission, la gouroutisation. Le collectivisme, c'est-à-dire qu'on oblige tout le monde à être pareil. Donc, on essaie de dominer la domination les uns sur les autres. On arrive aux avant-derniers, la culpabilité, l'auto-malédiction, l'auto-destruction, les hommes qui méprisent l'être humain. On déteste la vie, finalement. En Martinique, cette année, 36 meurtres, 200 tentatives de meurtre. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 240 personnes qui ont attenté à la vie de quelqu'un d'autre. Voulu tuer quelqu'un. C'est une fois par jour, à peu près. Enfin, où est-ce qu'on est? Et c'est dans le monde entier que cette violence augmente. Donc on déteste la vie, la culpabilité, le relativisme, enfin. Le relativisme, c'est le fait de... notamment dans les affaires religieuses, les gens sont des agnostiques, ils croient, ils croient pas. Il y a le syncrétisme, il y a une sorte de mysticisme vague. On croit un peu à tout ce qui passe. Comme des virus qui passent, on chope toutes les croyances. Et puis, évidemment, le satanisme, vous savez qu'à la fin de ce chapitre 13, c'est là qu'on donne le chiffre de la bête, etc. Donc l'athéisme politique, la persécution des chrétiens, le paganisme, etc. Et on voit bien, je l'ai dit dans mes autres catéchèses des autres années, j'ai regardé en 2019, en 2021, 2022, j'avais un tout petit peu parlé de la CDI, comme étant le grand vice satanique qui s'oppose aux vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est une absurdité qui finit par... détester l'homme et détester Dieu. C'est la fin de cette grande assurance qu'on avait. On avait promis le bonheur à l'homme et puis on chante comme le chanteur là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? On m'a promis, où est-ce qu'il est? Et finalement, on se déteste soi-même parce qu'on a rejeté, on a enlevé Dieu du milieu du village. Voilà. Alors, quelle est la réponse? Il nous reste quelques minutes quand même. D'abord, c'est catéchèse, c'est pour la lumière du Christ. Ça va? Vous allez bien? Bon, j'espère. Parce que la grande réponse, elle est là. Elle a toujours été là. C'est l'Église. C'est le prince de la paix. Le message de Jésus, c'est le prince de la paix. C'est comme ça que c'est sous ce nom, c'est l'un des noms, conseiller merveilleux, grand Dieu, prince de la paix. C'est comme ça qu'on va l'accueillir à Noël. Le prince de la paix, celui qui règne. Par rapport au règne bestial de la Cédille, il y a l'enfant mâle, celui de la femme, donc c'est Apocalypse 12, hein, qui va régner, qui a un sceptre en main, qui va régner sur toutes les nations. Il est le prince de la paix. Et lui, il nous place, d'abord il nous donne sa grâce. La grâce étant comme en nous, hein, une force, enfin pas comme, est une force que Dieu nous donne. Comme ces vertus théologales de foi, d'espérance et de charité qu'il va infuser en nous. Vous savez, vous infusez de la citronnelle, vous prenez la citronnelle, mettez dans l'eau chaude, et vous voyez que l'eau chaude prend l'odeur, la couleur et les vertus de la citronnelle. Et bien, Dieu va infuser en nous une connaissance, un amour et une joie vers l'avenir. Donc il va venir vaincre en nous. Donc le baptisé, celui qui n'est pas un enfant roi, ou qui n'aime pas l'enfant roi, au sens psychologique du terme, mais qui accueille un enfant roi, celui qui va mourir ensuite sur la croix. Le baptisé est celui qui accepte la frustration et ne tourne pas vers le non-limite, parce que la frustration devient pour lui un sacrifice, un acte d'amour. Le baptisé n'a pas la bougeotte, comme ce monde, où il va essayer de changer de chaîne, de femme, d'homme, de métier, de tout, mais va accepter l'itinérance pour le Christ, être déplacé, sortir de ses zones de confort pour l'amour et par amour. Celui qui a reçu la grâce, dans l'Église, c'est toujours l'Église qui nous confère tout ça, et dans la tradition. Hein, il reçoit quelque chose qui lui est transmis, et n'est pas non plus dans la rupture de ce monde qui veut toujours être dans la révolution, la rupture. Il va être dans la communauté de frères et de sœurs, et non pas dans la masse. C'est quelque chose que je reproche parfois à notre Église, que je reproche parfois ici en Martinique aussi. On a l'impression d'être dans une masse à l'Église, alors qu'il faut qu'on soit dans une communauté avec des frères et sœurs, pas des personnes qu'on appelle des gens, mais des frères et sœurs que l'on connaît et en qui on a confiance. C'est pas gagné, mais on y arrivera. Et donc voilà les éléments que le Seigneur nous donne. La grâce, donc le don de Dieu, la communauté, notamment dans laquelle je peux servir, rencontrer des pauvres, être accueilli moi-même comme pauvre, recevoir le pardon, pouvoir dire « s'il te plaît, merci », rendre grâce. Ensuite, spirituellement, il y a l'espérance. L'espérance, c'est le que nous donne l'Église. Pourquoi ? C'est une image que nous donne le père Timothy Ratcliffe. Il dit « quand vous allez prendre le bus, ça m'est arrivé dernièrement, je prenais le bus à Lourdes pour aller à Bordeaux. Il était 4h du matin. » Je ne connais pas le pays de la personne. Donc je ne suis pas sûr que le bus va arriver. J'ai pris mon billet sur Internet. Mais quand je suis arrivé à l'abribus, il y avait 4 personnes qui attendaient le bus. Et là, tu es rassuré. Et il dit, vous les catholiques, vous les chrétiens, vous êtes sur l'abribus, en fait. Vous les chrétiens, vous êtes l'abribus, vous êtes les personnes qui sont à l'abribus. Et les autres personnes vous voient en train d'espérer et d'attendre. Ils se disent, ça veut dire que le bus va passer. Le bus, c'est le Christ, c'est la venue du Christ. Et donc l'Église me donne l'espérance. Quand j'arrive, je dis, je ne suis pas le seul. J'arrive, j'étais à Fatima, là. Je dis, ou à Lourdes, ou à Rome. Je me dis, il y en a d'autres. Je ne suis pas le seul à croire. Ou à Medjugorje, père. Je ne suis pas le seul à croire. J'ai des frères et sœurs. Vous voyez, l'Église me donne cette espérance. La miséricorde, bien sûr, où l'Église me conduit vers la miséricorde. La grâce, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire les vertus. Hein, notamment celle du pardon. Hein, la grâce, c'est, vous voyez, le culbuto, j'aime bien cette image depuis quelques temps. C'est ces jeux qu'on offre aux enfants, glung, 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 et qui revient tout droit. Même quand il tombe, il revient droit. Parce que c'est à l'intérieur de l'objet qu'il a l'équilibre. Mais la grâce que Dieu nous donne, c'est ça. C'est à l'intérieur de nous qu'on revient à l'équilibre. Et puis, il y a la liturgie. La liturgie de l'Église qui nous fait goûter le ciel. Hein, mon petit chien Nougat, mon labrador, le matin, il n'a pas le droit d'entrer dans ma chambre. Mais il ouvre avec son nez, il ouvre la baie vitrée, puis il met une patte comme ça. Il n'a pas le droit d'entrer, mais il met une patte et puis il me regarde, il me fait comme ça. Et ça, c'est impressionnant. Parce que du coup, il n'a pas le droit. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Du coup, je me lève et je vais lui faire une caresse. Mais la liturgie, c'est un peu ça. On met la patte dans le ciel. On n'a pas le droit d'entrer au ciel. Alors, on verra après, mais pour l'instant. Mais c'est déjà un moment d'être au ciel. Et puis, l'Église nous apprend le silence. C'est exactement l'inverse du bavardage qui est nourri par la bête de la Cédie. Hein. Le silence, l'oraison, le moment où on fait l'expérience de la présence de Dieu. Ça, c'est une victoire. C'est une manifestation énorme de la grâce. Enfin, l'évangélisation, la mission, donc le témoignage prophétique, le service des pauvres, j'y reviens, être fou, joyeux pour le Seigneur, tout ça, c'est l'Église. C'est la réponse de Dieu. Ça, c'est la lumière du Christ face à cette ténèbre de la Cédie. Le fait d'être l'icône, Une icône, vous voyez, ça montre Jésus, voilà, ça montre Jésus. Mais c'est pas parfait, c'est pas une photo, c'est imparfait, c'est un peu naïf. Et en même temps, l'icône, elle montre le Seigneur. Quand on la regarde, soudain, on est saisi par sa naïveté, justement, parce que c'est pas une image parfaite, mais c'est une image qui monte du doigt. Et donc, l'Église, elle est cette icône du Christ, et qui, lorsqu'on a perdu le chemin, et que la sédie nous fait, et dans c'est le brouillard, c'est le démon de midi, on voit plus rien, la lumière du monde nous éblouit et nous transforme, et nous transfère dans un monde où il n'y a plus Dieu, à ce moment-là, hop, l'Église nous ramène. Malgré la pauvreté de ses membres, mais la tradition, ce qu'elle a reçu de Dieu, elle nous ramène devant le Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes, je viens pour les malades et les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis le bon pasteur, dit Jésus, je cherche la brebis égarée. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis la porte, dit Jésus, qui entrera par moi sera sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi la vie éternelle, croyez en mes paroles et vous vivrez. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.
Lumière du Christ dans ce monde qui passe, on reprend notre catéchèse. Alors cette fois, c'est la partie question avec ceux qui ont suivi la catéchèse sur la tristesse ou le règne bestial de l'acédie, la tristesse dans ce monde. Et donc, c'est parti pour la première question. Go.
Monseigneur, tu as parlé de l'orgueil et de l'acédie. Est-ce que tu peux nous préciser le lien qu'il y a entre les deux?
D'accord. Alors, en fait, les péchés capitaux sont connexes. Sont connexes dans dans l'impureté par rapport à Dieu. Alors, les péchés capitaux sont d'abord des vices. En fait, nous acquérons des mauvaises façons d'agir au fur et à mesure. Une vertu, c'est savoir marcher, savoir parler, savoir dire de bonnes choses. Un vice, c'est injurier. C'est la même chose qu'une vertu. Voilà, c'est un habitus qu'on acquiert au fur et à mesure de poser des actes. Finalement, ça devient, j'exagère un peu, quasiment une seconde nature. Et donc, les sept péchés capitaux, en fait, on parle aussi des sept démons. Et même au départ, il y avait huit démons. Bon, on a mélangé, fait la vanité et l'orgueil. C'est à peu près qui part du même principe. Donc, en effet, et puis elles sont liées les unes aux autres. C'est-à-dire que bon, la gourmandise, c'est d'abord la question de nourriture, de vendre, etc. Ensuite vient la question de la luxure. C'est pas compliqué. Après la luxure, l'avarice. Là, on se tourne déjà vers les biens extérieurs, la jalousie par rapport à mon frère, la colère par rapport à mes frères, mais le lien entre l'orgueil et la cédille, c'est que là, c'est par rapport à Dieu lui-même. Donc, ce sont les péchés les plus graves, qu'on appelle la paresse. Justement, j'aime pas trop qu'on appelle la paresse, parce que ça fait, on ne voit pas, dans la paresse, on voit pas très bien cette dimension qui existe aussi. Je l'ai dit, c'est l'une des têtes du dragon, du démon, de la bête. C'est une façon de se tourner, de se détourner de Dieu. Alors, tous les péchés sont des détournements de Dieu, mais là, c'est directement Dieu. Dans la gourmandise, on se tourne vers Dieu pour des questions de nourriture, de boisson, de drogue. Et la drogue, par exemple, c'est la gourmandise. Hein. Donc, ça fait, quand il s'agit de manger un petit pâté, en plus, c'est mignon, la gourmandise. Le péché mignon. Mais quand il s'agit de voir tous ces jeunes qui meurent et ces familles détruites, là, on rigole bien moins. Vous voyez, c'est le fait d'ingurgiter des choses pour nous, voilà. Donc, tous ces péchés mènent à la mort. La cédille, c'est la première marche d'un péché contre Dieu. Refuser l'amour de Dieu, en fait. Hein. Comme un petit enfant mal élevé, ou une épouse qui refuse, ou un époux qui refuse l'amour de son bien-aimé. Elle veut plus être aimée. Voilà, et c'est pour ça que j'ai cité Alain Souchon, carrément méchant, jamais content. Hein. Elle me dit que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant, qui aime plus ses jeux, sa vie, sa maman, qui a plus envie d'aimer personne. Voilà, carrément méchant. C'est exactement ça la définition de la cédille, d'une certaine façon. Et le lien avec l'orgueil, c'est que l'orgueil, pour le coup, c'est vraiment contre Dieu lui-même. C'est le fait de se prétendre plus que Dieu, plus fort que Dieu. De fait, tous les péchés sont de l'orgueil. Il était partout. Mais quand il est pur, à l'état pur, si j'ose dire, là, il est très fort. Parce que c'est vouloir être comme Dieu et dire à Dieu, je veux plus te servir.
Oui, j'ai une question. Vous y avez déjà partiellement répondu, Monseigneur. Simplement, est-ce que, ça pourrait aider nos amis auditeurs, est-ce que les péchés capitaux sont forcément les péchés les plus graves? Est-ce qu'il n'y a pas des péchés mortels qui pourraient être, entre guillemets, plus graves? Quelquefois, c'est pas très clair. Justement, quand on reçoit, je suis prêtre, donc quand on reçoit les gens en confession, des fois, c'est pas clair. Alors, si vous pouvez nous donner un petit éclaircissement, merci.
Merci. Très, évidemment, très bonne question. C'est plaisir d'avoir un prêtre comme auditeur. Oui, on se dit, mais pourquoi il n'y a pas le meurtre? Non, il n'y a pas le meurtre, il n'y a pas le blasphème, qui sont des péchés extrêmement graves. En fait, les péchés graves, ce qu'on appelle les péchés graves, c'est les 10 commandements. Ce sont des péchés. Alors que les péchés capitaux, ce sont les résonances du péché en nous. C'est-à-dire, c'est les raisons pour lesquelles on va commettre un péché. On va commettre un meurtre par gourmandise, ou par colère, ou par luxure, ou par avarice, ou par... Vous voyez? Donc ce sont en nous les racines profondes. C'est pas les actes eux-mêmes. Les actes sont... Enfin, les actes aussi, il y a des actes de gourmandise, des actes d'orgueil. Mais il y a des péchés, les péchés graves, qui sont, qu'on appelle les péchés mortels, ce sont les 10 commandements. Donc l'adultère, le vol, le meurtre, déshonorer son père et sa mère, et blasphémer contre Dieu, comme la bête de l'Apocalypse qu'on a vue dans la catéchèse. Et donc, c'est là la différence. Et ce qu'on confesse, ce ne sont pas des tendances, ce sont des actes. On raconte l'histoire du Saint-Curé d'Ars, vous connaissez peut-être mon père, il y a le Saint-Curé d'Ars qui est... quelqu'un arrive et dit « Je suis gourmand ». Le Saint-Curé d'Ars dit « Moi aussi ». « Je suis avaricieux ». Ben, moi aussi. « Je suis orgueilleux ». Moi aussi, on est tous, tout ça. Mais est-ce que tu as commis un acte d'orgueil, un acte de gourmandise, un acte... Vous voyez, celui qui résiste à la tentation, parce qu'on est tous. D'ailleurs, au départ, ce sont plus ou moins, quand on analyse bien, les sept péchés capitaux. Ça part de, je veux dire, de bons sentiments, enfin, d'une certaine façon. Si vous êtes en colère parce que quelqu'un a pris vos affaires ou a commis une injustice, ben, c'est un petit peu normal. Mais c'est lorsqu'on se livre et puis on finit par ne réagir que comme ça. Et là, le vice prend en nous comme une mayonnaise, quoi. Vice de gourmandise, etc. Donc ces choses qui sont liées à notre corps, à notre chair, à nos passions, à notre psycho-affectivité et même à notre spiritualité. Lorsque je suis un être humain, je suis un fils de Dieu, j'ai été créé libre et à l'image de Dieu. Donc c'est normal que j'ai un petit quant à moi. Mais quand ce quant à moi est plus fort que que Dieu dans ma vie, eh bien à ce moment-là, ça devient de l'orgueil, vous voyez. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont, entre guillemets, naturelles, mais qui vont être perverties par le péché en nous. Et donc on a tous à lutter contre ces choses-là, et puis quand on lâche, eh bien, on commet des actes, et notamment des péchés graves, et des actes. Et c'est les actes qu'on confesse, pas les tendances. Next, question suivante.
Monseigneur, contre toutes ces malédictions qu'on reçoit contre le démon, quel est le rôle du chrétien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, et ne pas faire?
C'est tout à fait le thème de cette catéchèse, même de toutes les catéchèses, lumière du Christ dans ce monde qui passe. Hein. On a vu plusieurs thèmes, etc. On verra d'autres sur les divisions, les conflits, les guerres, le clanisme. On a vu le racisme, les racismes, etc. On a vu toutes ces mauvaises choses qui existent, qui traversent ce monde et qui nous inquiètent et qui nous affolent. D'ailleurs, c'est l'un des jeux du démon d'être l'accusateur de nos frères, donc de nous faire accuser les autres. Certains chrétiens pensent qu'ils sont meilleurs chrétiens lorsqu'ils auront été plus offusqués, scandalisés, et qu'ils auront bien rouspété contre les pécheurs. C'est pas vrai. Un bon chrétien, c'est quelqu'un, justement, c'est ce que j'ai essayé de faire à la fin de la catéchèse, mais je veux bien le répéter là, parce que ça vaut la peine, rester dans l'espérance, savoir que je suis un témoin d'une espérance, et même quand je regarde l'être humain le plus versé dans le péché, là, c'est peut-être le miroir que je regarde, faut toujours faire attention, mais quand je vois quelque chose qui me choque, de garder l'espérance, c'est justement ça mon rôle. De dire, mais le Christ est plus fort que tout ça, c'est pas un scoop de savoir que des personnes font le mal et aillent très loin. Alors, parfois on découvre des choses. Je me rappelle quand j'ai été nommé exorciste, mon père spirituel m'avait dit, David, tu verras ce que c'est que les pauvres pécheurs. Vous croyez que vous êtes des pauvres pécheurs, vous êtes des rigolos les enfants. Sincèrement, c'est des rigolos avec vos gourmandises, de regarder des bêtises sur Internet, vous avez dit du mal de votre belle-sœur. Tout ça mène à la mort, hein, des péchés, il n'y a pas de petits péchés. Bon, mais les pauvres, les vrais, ceux qui sont allés très très loin, très très bas, que le diable a tiré vers le bas dans des bassesses et des basseurs, je ne sais pas si ça se dit, mais inimaginables. Voilà. Et face à cela, dans les moments d'exorcisme les plus terribles entre guillemets, le conseil que je donne, aux exorcistes, c'est de garder le sourire, de garder la confiance énorme, de ne pas se laisser avoir par les gesticulations de toute manifestation diabolique dans le monde, et notamment par rapport aux chrétiens. D'ailleurs, même le martyr, en fait, finalement, le martyr, c'est cela. Le martyr, celui qui affronte même la mort, qu'on va lui donner de façon terrible parfois, de façon sereine et dans la confiance et dans l'espérance. Donc, je parlais de la miséricorde, la grâce, bien sûr, la liturgie, le silence, la mission. Voilà des éléments par lesquels, moi, chrétien, je rappelle une sœur, une fois, qui, une petite sœur, une petite religieuse, simple et gentille, on lui avait demandé, mais qu'est-ce que vous faites pour la justice et la paix dans le monde? Alors, le gars qui posait la question, c'était un prêtre un peu 68 ans et tout, et qui avait envie que la sœur réponde « Ouais, je fais la grève de la faim, je manifeste, je fais des panneaux, je m'enchaîne devant les tribunaux, etc. » La sœur a dit « Ben moi, je dis mon chapelet, je fais oraison, et je fais le catéchisme aux enfants et je visite les personnes âgées. » Mais c'est elle qui avait raison. Mais c'est comme ça qu'on détruit le mal dans le monde. C'est pas en posant des machins, etc. Aujourd'hui, être saint, finalement, c'est assez simple. Avant, pour être saint, comme Saint-François, Saint-Dominique, il fallait mourir martyr, empalé dans un truc, il fallait fonder un ordre, il fallait avoir une vie mystique avec des lévitations et des... Aujourd'hui, être une maman chrétienne? Aujourd'hui, être un homme qui résiste aux tentations de son mieux, qui se confesse régulièrement? qui chute et qui se relève. Mais ça suffit pour entrer au ciel. Hein. Bon, il faut aussi des grands saints, mais bon, si on ne donne pas cette grâce-là, c'est pas mal d'être un petit saint, parce qu'un petit saint, c'est déjà une grande, grande chose, et une grande et belle chose. Donc finalement, vous voyez, quand on a tous ici, sauf notre petite sœur, nous sommes nés avant les réseaux, enfin, qui ont envahi le monde, et qui fait que l'information, mais on avait déjà la radio, la télé, le cinéma, etc., mais une information, n'importe laquelle, même mineure et idiote, traverse le monde entier, tout le monde est au courant, voilà. Eh bien, ça peut nous faire peur, parce que et puis surtout qu'on ne voit que le mal, et le mal se débrouille pour qu'on ne voit que lui, vous voyez. Donc, s'il y a aujourd'hui un Palestinien qui assassine un Israélien ou l'inverse, on va nous dire ça dans toute la planète, ça va circuler. Mais si aujourd'hui un Palestinien a offert un verre d'eau à un Israélien ou l'inverse, personne ne le saura. Et peut-être qu'il y en a 10 qui l'auront fait. Et donc, le mal envahit, et de fait, le mal, il nous fascine à un moment donné, on le regarde. Et il faut à un moment donné se détacher de nos chaînes de télé et machin, parce qu'il nous envahit au fur et à mesure. Et finalement, on finit par s'habituer. Et quand on a fini de s'habituer, d'abord, il nous offusque, hein, on est scandalisé, mais on regarde, mais comme ça, et puis à la fin, on regarde, et à la fin, on finit par l'adorer. On finit par s'y habituer. On finit par le trouver normal. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut au bout d'un moment. Donc nous, comme résistants, nous sommes des résistants par notre prière, en allant faire oraison et dire notre chapelet. Nous résistons. Nous, debout, nous tenons, dit la parole de Dieu. Debout, nous tenons. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, je vois dans ma vie, quand j'ai la vie religieuse au couvent, c'était tellement simple, là, la cloche qui sonnait, tu vas faire raison avec les frères. Bon, aujourd'hui, enfin, j'ai des sœurs, ça va. Mais inversement, lorsqu'on est seul, lorsqu'on est apôtre aussi, on a envie de se renseigner sur savoir ce qui se passe dans le monde, ben, voilà. Quand on est père de famille, mère de famille, enfin, il faut résister à... Heureusement que l'Église nous propose des temps de silence, des lieux de prière, des lieux de pèlerinage, etc. Question suivante.
Alors, Monseigneur, tu as parlé de la CEDI et tu as donné, parmi les réponses, que la communauté et de frères, précisément, serait une réponse. Devant la réalité que nous vivons, on voit que tout le monde fait l'amalgame avec le communautarisme, puisqu'il y a des crises identitaires. Et est-ce que tu pourrais apporter un éclairage et donner le sens véritable et de faire Église en étant communauté comme une réponse?
Ta question est géniale et très complexe et très, enfin, m'invite à beaucoup, beaucoup de réflexions. Je vais essayer d'être un peu, limite, la communauté. Bon, d'abord, c'est acte 2, 42. La multitude des apôtres n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Hein, qu'on retrouve en acte 4, 31, etc. Donc, on voit qu'au début, avec ce qu'on appelle, maintenant les cinq essentiels, qu'on retrouve dans une vraie communauté chrétienne. Alors ça va d'un couple, hein, d'une famille, jusqu'à une communauté paroissiale de 5000 personnes, etc. Il faut qu'il y ait la vie commune fraternelle, pas simplement d'être ensemble. Vous savez, des gens qui sont dans un bus, comme dit Timothy Ratcliffe aussi, ils sont ensemble, hein, ils partagent un espace, ils vont dans une même direction, mais ils ne sont pas une communauté. Parce qu'au moment où le bus quitte ma direction, je dis déposer à l'arrêt, et je descends. Alors que la communauté, c'est, on est tous ensemble, donc une communauté fraternelle, où on se connaît, etc. Deuxièmement, la prière, bien entendu, la prière commune, le service, notamment le service des pauvres, le service des uns des autres, le partage des biens dans la communauté aussi, hein, ça fait partie, l'évangélisation et la formation. Voilà, ça c'est les cinq essentiels qui font l'Église, qui font une communauté, aussi bien, ça va du couple à une communauté de 10 000 personnes. L'idéal, ce serait d'ailleurs des communautés d'une vingtaine, 30 personnes, où on a le temps de se connaître. C'est pour ça que nos paroisses, aujourd'hui, ont cette difficulté, et que, surtout nous, aux Antilles, on croit qu'on est encore majoritaire, les catholiques, tout le monde est catholique dans notre esprit, je regarde à chaque fois les jeunes que je reçois chaque semaine une centaine de jeunes, et qui sont ensemble depuis 8 ans au catéchisme. Je leur demande, est-ce que tu connais un tel? Ah ben non. Et parfois, c'est des groupes de 30 jeunes, hein. Il y en a 3 dans la salle. Donc, je prends des gens qui sont dans la même paroisse. Ils se connaissent pas. Ils sont pas devenus frères. Et nous, on n'a pas pris cette habitude-là parce qu'on a l'impression que tout le monde était catholique, donc tout le monde était censé être frère. Ça veut dire mon œil, quoi. Ça marche plus. Et tant mieux, parce qu'on va devoir, vraiment. Donc là, ça, c'est un acte de résistance. Et c'est vrai aussi de ceux qui sont pas dans l'Église. Je suis allé visiter le stade toulousain et les rugbyman il n'y a pas longtemps. Eh bien, il y a un esprit de famille avec le nom des héros, machin, de ceux qui sont morts. On a pris un temps de prière pour ceux qui sont morts dans le club, etc. Enfin, vrai, il y a cet esprit, les plus jeunes, les enfants, qui sont avec les champions, qui ont été champions du monde, etc., qui s'entraînent sur le même terrain. Enfin, il y a un esprit. Bon, bah, c'est pas un scoop non plus, quoi, que l'être humain a besoin de ça. Eh bien, en Église, on a intérêt à le faire. En plus, on attend que ça. Et l'Esprit Saint nous le demande. Bon. Maintenant, tu parlais du communautarisme, c'est vrai. Donc, c'est vrai aussi qu'il y a des cancers de l'esprit communautaire. Par exemple, le sectarisme, se renfermer, ou au contraire, prétendre à la mondialisation, on va mélanger tout le monde. Mélanger tout le monde, c'est pas simple, on en reparlera dans la mondialisation, dans les catéchèses. Hein. On va mélanger tout le monde, toutes les cultures, finalement, on va faire une grosse bouillabaisse, on va tout mélanger, ça s'appelle le gloubi-boulga. Je pense que les plus anciens ont connu Casimir. Hein, ils mélangent tout, du chocolat, des anchois, des chips, des pois blancs, des pois rouges, etc. Tout est mélangé et on fait un grand repas. C'est pas bon. Et donc, Dieu aime quand les peuples se rencontrent, mais chaque peuple a son identité. Et sa terre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous que tous nos jeunes s'en vont, nos jeunes d'Afrique qui partent, qui quittent leur terre, parce qu'ils sont phagocytés par ce que le pape François a appelé l'impérialisme idéologique d'une Europe ou d'un Occident qui leur propose d'avoir des Nike aux pieds, de vivre, etc., etc., plutôt que de s'occuper du troupeau de chèvres ou de la plantation de manioc, ou ici de planter ou de rester auprès de père et mère. Non, on part en France parce que là, on a l'espoir d'une vie meilleure. Et ça aussi, c'est un problème. Il y a une certaine mondialisation qui a des grandes idées, etc., très ouvertes, et qui en réalité n'est pas conforme à ce que Dieu veut pour l'humanité. Dieu veut que les peuples se rencontrent, ne soient pas seulement fermés, l'esprit de clocher, les uns, ou encore moins ennemis, mais Dieu veut que chaque peuple, parce que chaque peuple dans sa culture, et nous, Antillais en particulier, on a quelque chose à apporter au monde. Et si on perd ce que nous sommes, c'est le monde entier qui va perdre. Oui, c'est le monde entier qui va perdre une partie de lui-même. Donc ça, c'est important. Et l'Église a toujours respecté les cultures. La foi chrétienne, ça c'est important à le dire, parce que certains pensent que l'Église est forcément européenne. Mais c'est faux. D'abord, c'est une religion qui vient de ce qu'on appelle la Terre Sainte, donc Moyen-Orient, puis finalement qui est au milieu entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Donc vous voyez, on voit bien que cette religion est passée par l'Europe. Et historiquement, nous, aux Antilles, on l'a reçue par les Européens, mais aujourd'hui, ce sont des Africains qui viennent nous apporter la foi, et réciproquement, etc. Donc c'est une religion, le Christ a toujours... c'est toujours intégré dans toutes les cultures, mais en respectant les cultures, pas en les détruisant. En faisant jaillir de chaque culture, on parle du sel de la terre, c'est ça le sel, on met du sel dans le repas, il va faire jaillir dans chaque mets la saveur particulière de ce mets. Ouais. Et donc c'est cela, le christianisme, le sel de la terre, vient faire jaillir ce qu'il y a de plus beau en chaque peuple et en chaque homme. Et c'est cela que... Voilà. Et donc la communauté est essentielle pour préserver cela, Dieu le veut immensément. Il y a encore des questions?
Oui.
Next.
Alors, la question, c'est que pourquoi ce manque d'enthousiasme dans l'Église aujourd'hui?
Alors, manque d'enthousiasme dans l'Église, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas indemnes de tout ce que je viens de dire. Et le risque de ma catéchèse de cette année, hein, de cette catéchèse Lumière du Christ dans ce monde qui passe, c'est de penser qu'il y a les cathos d'un côté qui sont de pure blanche colombe, qui s'envolent au-dessus de la gadoue et de la boue de ce monde, et puis qu'il y a la boue de ce monde. Non, on n'est pas indemne, mais on se laisse avoir. On se laisse avoir. Le pape Paul VI a été assez violent dans un texte, il a dit que les fumées de Satan étaient rentrées dans l'Église. Qu'il y a des fumées de Satan dans l'Église. Notamment cette tristesse du monde qui rentre. Alors, elle ne rentre pas directement. Elle rentre d'abord parce qu'on n'est pas... On a un petit esprit aussi 68A. Alors, mai 68, c'est une révolution internationale dans ce monde. Et c'est une révolution qui a fait que on ne respecte plus l'autorité. Il n'y a plus d'autorité. Et donc, dans l'Église aujourd'hui, lorsqu'un évêque ou un prêtre ou un pape, par exemple, quand il y a un nouveau pape, on est venu me voir pour me demander « Qu'est-ce que je pense du nouveau pape ? J'ai le droit de juger mon père ?» C'est le pape. Je ne vais pas dire « Je l'aime bien, celui-là. Il est mieux que celui d'avant. Il est moins bien que celui d'avant. » Mais c'est quoi, ça ? Ou quand le pape... Hier encore, je discutais avec quelqu'un qui me dit « Alors, le pape a pris une décision. » Il dit « Oui, non, mais la décision qu'il a prise, il n'était pas au courant. Parce que ça, en fait, c'est une décision qui a été prise par des gens qui sont contre ça, etc. » Je dis « Attends, mais ça vient du pape ?» Ah non, mais c'est un gars qui s'est converti il y a 4 ans. Je dis « il y a 4 ans, tu n'étais même pas chrétien, mais aujourd'hui, tu en es le soir à tout le monde, même au pape !» Et ça, c'est aussi, c'est entrer aujourd'hui un évêque, je s'en suis un, ou un pasteur, un curé dans sa paroisse, lorsqu'il va prendre une décision, il y a la moitié des paroissiens qui vont ah ouais, mais non, etc. Alors, ça peut être qu'il faut être béni, oui, oui. La synodalité, justement, que le pape François a voulu, c'est que tout le monde soit écouté, mais ça veut pas dire que c'est une démocratie et qu'on va voter avec 50% qui sont d'accord et puis 49% qui sont pas d'accord, 51-49. L'idée, c'est qu'on va tous. Mais à un moment donné, il y a un pasteur, comme dans une famille, il faut bien qu'il y ait quelqu'un, les parents, qui prennent la décision, et on s'y plie. Peut-être qu'il y a un des enfants qui voulait aller à la plage, et l'autre veut aller à la montagne, et puis, etc. Et les parents disent, bah, écoutez, compte tenu de nos moyens, compte tenu de telle disposition, nous, on a décidé d'aller là pour le bien de tout le monde. On pense que le mieux, c'est ça. Oh, il y en a un qui veut manger à 19h, l'autre veut manger à 23h parce qu'il a besoin de sortir avec ses copains. Les parents disent, on mange à telle heure. Et dans l'Église, l'une de nos tristesses, c'est cela. Il y a une autre tristesse, c'est que c'est la même que la première, on a un regard politique sur le monde. Or, c'est pas un regard politique. Politiquement, on va échouer. Le Christ a échoué politiquement. Il a réussi le jour des rameaux. Il a tenu la ville, là. Le vrai dimanche des chrétiens, c'est pas les rameaux, c'est Pâques. Et là, il a échoué politiquement. Il est sur la croix entre les deux. Donc il a perdu, la foule qui criait Hosanna a crié crucifie-le. Donc là, les élections, c'est perdu. Donc les chrétiens sont, les disciples sont bouleversés. Or, notre regard sur l'échec, on en a parlé un petit peu déjà, c'est un regard prophétique en fait. C'est un regard comme celui de la croix, c'est une victoire. Donc quand les chrétiens ont compris que c'est le dimanche des rameaux, de Pâques qui compte, et pas le dimanche des rameaux, c'est-à-dire de voir notre Église dans ce regard, et le pape François a beaucoup insisté là-dessus, il n'est pas le seul, le pape Benoît aussi, de regarder les germes de vie. Moi, je suis émerveillé, par exemple, l'Église de France, je suis émerveillé de la puissance, on dit qu'elle est en train de mourir, etc. C'est pas vrai du tout, hein. Il y a plein de jeunes, de gens qui veulent donner leur vie à Jésus, malgré tout, voilà, malgré tout ce qui... On n'est plus l'Église rayonnante qui domine tout le monde, mais... Et en Martinique, ça va nous arriver aussi, et tant mieux. Il y aura des fidèles qui vont donner leur vie au Christ, vraiment, et non pas par habitude pour suivre tout le monde. Et ça, c'est un signe de la victoire de notre Dieu. Et ça, ça nous donnera beaucoup de joie. Il y en a déjà, d'ailleurs, si on regarde bien, si on regarde avec un regard prophétique. Encore une question ? Oui ?
Alors, une petite question. Est-ce que le fait de se confesser souvent protège de l'orgueil, de la sédie.
Bien sûr.
Se alors, confesser, ouais. Mais plus largement, de recevoir les sacrements.
Tout à fait. Ouais. J'enseigne souvent, en tant qu'ancien exorciste, et puis exorciste toujours, parce que l'évêque est aussi un exorciste, que les fidèles ne se rendent pas compte à quel point la vie chrétienne est en fait, la vie chrétienne normale est un grand exorcisme normal, le courant de notre vie. Vous voyez. Quand tu mènes une vie saine, eh ben, les problèmes de santé, tu en as moins. C'est tout. Enfin, quand si tu mènes une vie dangereuse et tu manges, tu bois n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, ben, dans ce cas-là, tu es en dehors du, voilà. Alors, à ce moment-là, tu retournes chez le médecin et tu vas, à la clinique pour être soigné. Bon, ben, la vie chrétienne nous protège énormément. L'Église, c'est ça la réponse d'ailleurs devant ce règne bestial de la sédie, de la tristesse, ce démon de ce monde, en fait, de notre époque. C'est la vie chrétienne. Malgré les faiblesses, malgré le péché des membres, des prêtres, de l'évêque, des évêques, de madame une telle, de monsieur un tel responsable de ceci, de cela, on a plein de gens boiteux, il n'y en a que ça d'ailleurs, Dieu merci, dans le troupeau du Seigneur, mais le troupeau est saint. Et la vie sacramentelle, c'est précisément une véritable libération, délivrance et guérison des esprits mauvais qui nous envahissent et des pensées mauvaises qui nous détournent de notre Dieu. Et donc, c'est le chemin normal que le Seigneur nous donne. Ça, je l'enseigne très souvent dans mes enseignements sur le mal, sur le bien, etc. C'est pas tellement notre effort pour faire le bien qui compte, c'est la grâce. c'est de recevoir la grâce, de dire merci Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Merci à tous.